L'art de pas se faire chier en affaires, numéro 1, la genèse. La foi, c'est faire le premier pas, même quand on ne voit pas l'escalier au complet. Martin Luther King, fils. Vous êtes les premiers et vous embarquez sur la foi d'un titre et de rien d'autre. Ce que je trouve à la fois flatteur et légèrement inquiétant. Ceci est le premier numéro de l'art de pas se faire chier en affaires. Une fois par mois, je vous raconte ce que j'ai appris en le faisant plutôt qu'en le lisant. Ce qui a marché, ce qui a coûté cher et ce que je ferais autrement si on me remettait au jour 1. Je vous préviens honnêtement que la majorité de ces leçons m'ont été enseignées par mes propres erreurs, ce qui est une façon polie de dire que je vais passer une bonne partie de mon temps à vous raconter comment je me suis planté. Si ça vous parle, envoyez-le à quelqu'un qui en aurait besoin. L'adresse est baldio.ca/infolettre. Il y a une croyance très répandue dans mon métier selon laquelle le problème vient toujours de l'endroit où tu te trouves et qu'il suffirait de changer de côté de la clôture pour que le travail redevienne intéressant. J'ai testé la théorie personnellement avec beaucoup de sérieux. Je peux vous confirmer qu'elle est fausse. J'ai travaillé des deux côtés du métier de marketeur, à l'interne d'abord, à défendre une marque avec les moyens qu'ils avaient, et ensuite en agence, là où j'étais convaincu que tout serait plus grand, mieux payé et plus intéressant. Le gazon n'est pas plus vert chez le voisin, il est seulement tondu plus court et il y a pas mal plus de monde qui marche dessus. Les semaines avant mon départ de l'agence, je ne dormais plus, je ne mangeais plus et chaque minute de travail était un calvaire. Je devais travailler dans quelque chose qui ne correspondait aucunement à moi, à mes valeurs, à ma manière de travailler, et je le faisais quand même tous les matins en me disant que ça finirait par passer. Ce qui est jamais arrivé. Le détail le plus gênant de cette histoire, c'est que je voyais tout ça venir depuis des mois et que j'ai choisi de continuer pareil parce qu'il est toujours plus confortable d'endurer quelque chose de connu que de décider quelque chose d'inconnu. On me dit toujours qu'il y a un élément déclencheur pour partir en affaires. Un moment précis qu'on raconte après coup dans les 5 à 7, une scène de film avec une trame sonore et un ralenti. J'ai rien de tout ça à vous offrir. Je ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs. Je n'ai pas de modèle à suivre, pas de moule pour me cadrer, surtout personne à appeler un dimanche soir pour me faire donner des sages conseils qui m'auraient permis de fermer les yeux et dormir en paix la nuit. Ce n'est pas une décision prise à la légère, c'est une décision prise au pied du mur, un mardi de mai, sans témoin ni trompette. Rendu où j'étais, tu as quoi comme choix? J'ai fini par comprendre que la seule chose qui me manquait était la permission et que personne n'allait me la donner. Je me la suis donnée moi-même en écrivant une publication sur Facebook pour annoncer que je partais à mon compte, essentiellement pour me fabriquer un faux sens d'imputabilité, au cas où l'envie de reculer me reprendrait le lendemain matin. C'est tout ce que ça prend au départ, un premier pas assez petit pour être faisable et assez public pour qu'on puisse l'effacer. Le monde t'applaudit ce matin-là, sauf que tu n'as encore absolument rien à fêter, et une centaine de personnes viennent de te souhaiter bonne chance pour quelque chose que tu n'as même pas encore commencé. Tu sais seulement que tu viens d'arrêter de reculer, et pour l'instant, ça suffit amplement. Le conseil qu'on donne aux nouveaux, c'est d'être flexible, d'accepter à peu près tout ce qui passe, et de se différencier plus tard, quand on aura les moyens d'être difficile. Je l'ai suivi avec une rigueur exemplaire pendant des mois, et le seul résultat clairement mesurable a été de devenir la version légèrement moins chère de quelqu'un d'autre. Le problème avec le fait de partir sans modèle, c'est que tu finis par copier ce que tu vois autour de toi, et ce que tu vois autour de toi est déjà pris par quelqu'un d'autre. Ma première niaiserie a donc été d'arriver avec une offre de service pas adaptée au marché. Quand tout le monde offre exactement la même affaire que tu fais quoi pour te démarquer? Ça m'a pris quelques mois pour comprendre la question et un peu plus longtemps pour y répondre. J'ai pris confiance et je me suis positionné comme l'expert plutôt que comme un sous-traitant. C'est à partir de ce moment-là que tout a basculé. Ce que tu vends, au fond, n'est jamais une liste de tâches. Un client ne signe pas parce que le chiffre est le bon. Il signe parce qu'il a arrêté d'avoir peur et tout le reste, la logique, le budget, les comparaisons avec les deux autres soumissions arrivent après coup pour justifier une décision qui est déjà prise. Une fois que j'ai su quoi vendre et à qui le vendre, il me restait un problème pas mal moins romantique à régler. Tout ce qui se trouvait derrière tenait encore dans ma tête et dans mes courriels. Le conseil habituel dans ce temps-là, c'est de s'organiser plus tard, quand il y aura un volume, quand ça vaudra la peine. C'est une excellente stratégie si ton objectif est de rester petit. La deuxième chose que je changerais, c'est de structurer les opérations dès le départ et surtout d'arrêter de me raconter que j'aurai bien le temps de m'en occuper un jour. Le but de l'exercice n'a jamais été d'avoir du temps. Le but, ça a toujours été d'être débordé. Tu veux que les demandes rentrent plus vite que ta capacité à les traiter, et le jour où ça finit par arriver, tout ce que tu n'avais pas préparé d'avance se transforme en frein. Un contrat qu'il faut réécrire au complet à chaque mandat, une facturation qui se fait de mémoire, des fichiers éparpillés dans quatre endroits différents, ce sont des irritants quand tu as deux clients. Ce sont des bloqueurs de croissance quand tu en as 20. Les tâches plates ne deviennent jamais plus faciles avec le temps, elles deviennent seulement plus chères. Il y a par ailleurs une fierté un peu bizarre à tout faire soi-même. Je l'ai eue autant que n'importe qui. Elle t'occupe suffisamment pour que tu ne remarques pas que tu n'as toujours pas d'entreprise. Ma vraie motivation là-dedans n'avait rien à voir avec l'efficacité. Elle tenait dans une question que je me posais régulièrement. Si demain matin, je me casse un bras, est-ce que je perds tous mes clients? Au début, c'est parfaitement normal de tout faire soi-même. Il n'y a rien de mal là-dedans, tant que ça reste temporaire. L'idée est de rendre le travail assez prévisible pour être confié à quelqu'un d'autre, avec des systèmes qui tournent sans supervision, des partenaires pour ce qui sort de ton expertise et des pigistes que tu as déjà testés avant d'en avoir désespérément besoin. Chaque tâche que tu sors de tes mains est du temps que tu récupères pour faire fonctionner l'entreprise et pour la faire croître, ce qui est censé être ta job. Voici les 5 choses que j'ai mises en place dans ma première année et que je referai demain matin dans le même ordre. 1. Écrire un contrat, un vrai, et l'utiliser pour tout le monde. Rédigé une fois, relu par un avocat et sorti sans exception pour chaque mandat, y compris celui que tu décroches par un ami commun qui a l'air trop simple pour valoir un document. Un mandat qui part sans contrat est un mandat que tu vas devoir défendre de mémoire 8 mois plus tard devant quelqu'un qui se souvient très différemment de toi, qui, curieusement, se souvient toujours en sa faveur. Le contrat ne te protège pas d'un client malhonnête, il te protège de ta propre gêne. Celle qui t'empêche de dire non quand la demande arrive un jeudi soir et que tu n'as plus l'énergie de te battre. 2. Décider de quand tu factures avant même de commencer à travailler. Pour un mandat récurrent, une date fixe inscrite au contrat est respectée peu importe où en est le travail ou à quel point tu te sens légitime de la demander ce matin-là, le premier du mois par exemple. Pour un mandat ponctuel, les modalités écrites noir sur blanc et l'envoi programmé d'avance pour que la facture parte toute seule à la livraison plutôt que le jeudi suivant. C'est niaiseux à écrire, mais la journée où c'est devenu automatique, j'ai découvert combien d'heures j'avais donné gratuitement à des gens qui, eux, n'avaient jamais oublié une seule fois de me facturer quoi que ce soit. Ta facture n'est pas une faveur que tu demandes, c'est la moitié de l'entente que tu as signée. 3. Faire 1 heure de comptabilité par semaine, toujours le même jour. Ça ne se fait ni pour l'impôt, ni pour bien paraître au mois d'avril, ça se fait pour savoir. Tant que tu ignores exactement ce qui rentre, ce qui sort, tu prends chacune de tes décisions à l'estimer en te fiant à une intuition qui est toujours de bonne humeur quand ça va bien et complètement catastrophée dès qu'un client paye en retard. Trouve-toi aussi un comptable avec qui tu es capable de parler pour vrai. Pas seulement quelqu'un qui reçoit tes documents une fois par année en silence, parce que les questions que tu n'oses pas poser sont exactement celles qui te coûtent le plus cher. Prépare-lui ses documents comme il le demande, plutôt comme ça t'arrange. Puisqu'il n'est pas dans ta tête et qu'il ne devine pas ce qui représente un virement de 4 000 $ sans description, c'est un arrangement qui tient le temps qu'il faut pour ramener éventuellement cette expertise à l'interne. 4. Écris comment tu fais les choses la deuxième fois que tu les fais. Un document plat dans tes mots avec les étapes dans l'ordre, sans mise en page et sans logiciel à 30 $ par mois. C'est ce document-là qui sépare une entreprise d'une job que tu t'es donné à toi-même. Parce qu'une job ne se délègue pas, ne se vend pas et ne laisse jamais partir 2 semaines sans que ça ralentisse. C'est exactement au même rythme que toi. 5. Réunir tout ce qui existe dans un seul endroit. les accès, les mots de passe, les ententes et les fichiers clients rassemblés dans un système que quelqu'un d'autre pourrait ouvrir sans que tu sois là pour lui expliquer où t'as caché quoi. Le test tient en une seule question. Si tu te ramassais à l'hôpital demain matin, est-ce que ton entreprise roulerait une semaine complète sans toi? Si la réponse est non, tu n'as pas bâti une entreprise, tu as bâti une dépendance et c'est toi qui es dedans. Je suis parti sans personne à appeler, ce qui explique probablement pourquoi j'ai fini par bâtir quelque chose que quelqu'un d'autre pourrait ouvrir sans moi. Si tu pouvais retourner à tes débuts, qu'est-ce que tu ferais différemment? Écris-moi au mgoc@commercialbaldio.ca. Je réponds à tout le monde.